Et donc nous sommes toujours sur une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une histoire de l'anarcho-syndicalisme en Espagne de 1910 à 1936, et des débats autour du communisme libertaire, et nous sommes toujours avec Vincent et Myrtille, des Jiménologues, pour en parler, pour une émission autour de leur livre paru en 2018 aux éditions Divergence, qui s'appelle donc l'anarcho-syndicalisme, travaillé par ses prétentions anticapitalistes. Et donc là, dans une première partie de l'émission, on a parlé de ce qui se passe avant la Deuxième République espagnole, et là, on revient en 1931.
En 1931, donc la République se met en place en avril, et en juin se tient le troisième congrès de la CNT, où 511 syndicats représentés par 500 représentants 535 000 affiliés. Donc la CNT a repris des forces, et à l'intérieur, on va voir au cours des débats que les réformistes, ce qu'on va appeler les réformistes, commencent à prendre un certain ascendant, puisqu'ils vont soutenir que le syndicat, loin de disparaître après l'abolition du capitalisme, deviendra l'organe essentiel de la future société anarchiste. Donc je cite une formulation de cette thèse. « Le syndicat d'industrie est la meilleure forme d'organisation possible, non seulement comme instrument de résistance face au capitalisme, mais aussi comme valeur pour supplanter ce dernier dans l'hégémonie et la direction de la société. » Donc dans il va y avoir des débats houleux autour de cette thèse-là. Et par exemple, Peiro va défendre cette proposition. Elle va être exprimée aussi de cette manière-là, je cite, « À la concentration du capitalisme doit correspondre celle de la force du prolétariat. Le syndicalisme est industrialiste dans la mesure où il se voit obligé d'adapter ses comportements aux coordonnées technologiques et économiques du système auquel il veut succéder. » Donc voilà ce terme « industrialiste », c'est un terme de l'époque, hein, terme que va reprendre une partie du mouvement de la CNT. Donc il va y avoir des affrontements sur ce terme-là, et on va vous citer d'autres militants de la CNT qui ont une vision absolument contraire.
Plutôt que dans le sentiment industrialiste, c'est dans la solidarité et la conscience de classe des syndicats et organisations les plus immédiats que nous devons chercher l'efficacité. La lutte que les travailleurs ont engagée ne se limite ni ne se circonscrit à une amélioration immédiate ou progressive de type industrialiste. Elle est plutôt résolument révolutionnaire et négatrice de l'ordre bourgeois capitaliste, dont nous voulons la totale disparition. Nous ne pouvons nous baser sur la structure économique bourgeoise, ni nous adapter à elle, ni aller à sa remorque. En tant que révolutionnaires, nous devons subvertir ses valeurs. Alors c'est donc un autre auteur, José Alberola, qui exprime le même type de désaccord. Les partisans de la fédération d'industrie ont perdu la foi dans la finalité et ne font confiance qu'à l'engrenage de la machine. Et moi je dis que la machine ne crée pas la force. Au contraire, elle la consume. Et dans ce sens, nous devons créer une mentalité réfractaire à tout ce qui implique de mécaniser l'individu. Nous devons faire en sorte que toute organisation soit vivifiée par les ouvriers eux-mêmes. Visons la commune libre. Il s'agit de détruire l'organisation du capitalisme. Ayons un idéal qui est en définitive ce qui va tôt ou tard étouffer cet engrenage capitaliste.
Voilà, c'est ces termes-là, de manière bien tranchée, quand on voit que les deux courants apparaissent, les deux courants héritiers un peu des débats de la fin du XIXe siècle, la tendance communaliste qui va se dire elle-même ruraliste ou agrariste, selon les termes de l'époque, et la tendance syndicaliste, industrialiste, qui veut reprendre l'appareil industriel du capitalisme pour en faire un meilleur usage. À ce moment-là, on voit aussi que dans les comptes rendus du Congrès, le terme d'abolition du salariat, qui était toujours présent dans toutes les communications, là, il a disparu. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. On ne sait pas pourquoi. Et le rôle des masses paysannes, surtout, là, est de plus en plus relégué au second plan. Ce qui était déjà visible depuis 1919, là, s'accentue encore plus. Là, il n'y a pas de syndicat purement paysan, comme il y avait avant, jusqu'en 1919. Il a disparu, il était absorbé par la CNT. Et beaucoup de militants dans les congrès protestent parce qu'ils disent « mais on ne s'occupe pas des masses paysannes. Elles sont syndiquées, elles sont affiliées, mais elles n'ont pas de journal, elles n'ont plus rien. Tout est comment dire, à distance. Il y en a qui ne reçoivent même pas nos journaux. On abandonne les masses paysannes et ce n'était pas notre idée quand on a parlé de communisme libertaire. » Ça va être la tendance la plus marquée qui va aller avec ce processus d'ouvriérisme, de primat de la production et de la production urbaine et industrielle. Voilà, la CNT va devenir un syndicat essentiellement qui va s'occuper des ouvriers urbains. Et ça va avec cet abandon de certains principes fondamentaux du communisme libertaire. Donc, il va y avoir des crises en rapport avec ces tendances et des stratégies qui en découlent, puisque les communalistes vont toujours privilégier les mouvements insurrectionnels, de préférence qui partiront des campagnes, qui vont se produire avec proclamation du communisme libertaire. Il va y avoir des mouvements qui vont se succéder entre fin 32 et fin 33 et qui échoueront tous de manière très nette. Que ça parte dans des communes villageoises ou que ça parte dans des milieux plutôt urbains en Catalogne, en tout cas, ça ne marche pas. La population ne suit pas. Il y a une répression très, très sévère qui vient juste après. En Andalousie, en Aragon, en Catalogne, il y a plusieurs foyers.
Mais qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, du coup, l'échec de ces mouvements insurrectionnalistes ?
Que Juan Peiro, Pestaña et d'autres, le courant industrialiste, dit, vous voyez bien qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut revenir à la lutte syndicale classique, revendicative, appuyée, en déployant un mouvement ouvrier très fort, avec de fortes valeurs morales, qui lui amènera l'opinion à sa lutte. Alors que les luttes insurrectionnalistes comme ça sont des luttes de groupes, de petits groupes qui n'entraînent pas la population. Ce en quoi ils n'avaient pas tort, mais ça n'empêchait pas le débat de continuer. De toute façon, les tensions vont être si fortes entre les deux courants et avec la tendance insurrectionnaliste et la tendance de lutte syndicale de type classique que de toute façon, il va y avoir une scission très importante en 1931 et une partie du mouvement donc, va se scinder en deux. Alors, après 1933, après l'échec de ces mouvements insurrectionnalistes, il n'empêche que le débat continue, et là, ça va être un débat théorique et à coups de brochures et de proclamations, d'articles. Et là, tout le monde ressent le besoin de mettre tout ça sur papier et de creuser quand même, de creuser un peu profond. Ça ne suffit pas les invectives dans les congrès, les engueulades, les grands cris, etc. Donc il y a une multiplication de documents, de textes. Et donc le courant industrialiste va s'inspirer, comme on disait tout à l'heure, de ce qui se passe en France et au sein de l'AIT. On va reprendre les textes de Pierre Bénard, de Cornelissen, de gens qui défendent un syndicalisme révolutionnaire et certains comme Cornelissen qui défendent le principe d'une période de transition. Là, ça nous fait replonger dans ce que justement le mouvement anarchiste s'était éloigné de la social-démocratie qui avait défendu ces thèses-là. Et là, on y revient finalement d'une manière assez importante. Donc là, chacun va sortir sa petite brochure, va défendre son point de vue. Et dans, par exemple, les partisans du communalisme agrariste vont être défendus par Federico Urales, qui va publier une petite brochure qui s'appelle « Los municipios libres », l'organisation au niveau de la commune. Pour résumer un petit peu son propos, il prône l'idéal de la commune agricole indépendante et le travail de la terre, je cite, « le seul acceptable contre le travail de l'ouvrier industriel qui ne lui inspire que répulsion et dégoût ». C'est des gens qui reviennent sur la notion de travail, mais qui expliquent bien que depuis que l'industrialisation et la généralisation du salariat, le travail qu'on oblige les salariés à faire est leur répugne fondamentalement. Ils appelaient à décongestionner les villes et les industries, à réconcilier les villes et les campagnes, en créant ce qu'ils appelaient les agro-ciudades, les villes agraires, si on peut dire, à partir des communes rurales, tout en rappelant que c'est dans les communes rurales justement qu'on avait connu un mode de vie solidaire et qu'il fallait renouer avec ça. Donc ils imaginaient un monde où il ferait bon vivre dans la mesure, déjà où on travaillerait moins, avec une utilisation modérée des machines. Donc, ce n'est pas des passéistes anti-machines, pas du tout. Ils disent, non, très bien, on veut bien, au contraire. On veut que l'homme s'épanouisse, qu'il ait une vie en dehors du travail. Et donc, si on peut travailler moins, on est partant. Mais avec une utilisation modérée des machines. Donc, je cite, « L'industrialisation sera strictement restreinte aux produits qui vont avec une vie simplifiée, où les besoins de l'esprit ont davantage d'espace et de temps pour se cultiver. »
Donc, c'est un petit peu l'idée que voilà, la technique doit rester au service des besoins de la commune et non pas devenir des impératifs impersonnels qui dominent.
Imposer son tempo, ça, tout à fait, c'est très précisément signifié. Alors Santillane qui va continuer aussi ses articles, lui pourfend les deux formes du fascisme, le taylorisme et la domination du procès de production sur le travailleur. Par exemple, c'est les termes de l'époque. Et en cela, il suivait Gustav Landauer, dont il était le traducteur en Espagne. On va citer un extrait qui est, de notre point de vue, très intéressant.
Tout ce qui se passe au sein de la production capitaliste ne peut mener qu'à une intégration toujours plus marquée en elle. Les travailleurs doivent comprendre qu'il faut sortir du capitalisme. Les peuples, la bourgeoisie et aussi la classe ouvrière se sont de plus en plus impliqués dans les conditions de la production spéculative, sans sens et sans culture, dont le but est de gagner de l'argent. Le capitalisme n'est pas une période de progrès, mais de déclin. Le socialisme ne naîtra pas au cours de l'évolution du capitalisme, ni du fait de la lutte des travailleurs en tant que producteurs à l'intérieur du capitalisme. Ce sont là les résultats auxquels nous sommes parvenus.
C'est Gustav Landauer en 1911. Un texte qui va être réédité juste avant sa mort en 1919. Ça s'appelle « Incitation au socialisme ». C'est des thèmes qui vont revenir de manière récurrente dans tous les écrits de cette époque-là. Donc là, c'est très important. Et Santillane, vraiment, traduit ça et le diffuse, s'inspire de cette pensée-là, en tout cas encore en 1931, quand il diffuse les articles dont on a déjà parlé. Ce mode de vie au village, finalement, parce que certains se sont interrogés, mais comment tous ces militants urbains, parce que c'est des militants urbains qui travaillent, qui écrivent, qui militent et qui produisent cette idée-là de communauté agrariste. Et en fait, c'est des gens qui ont encore été très liés à leur commune d'origine. C'était des gens qui étaient venus des campagnes aragonaises, andalouses, de Murcia, etc. Et c'est des gens qui avaient encore le souvenir de ce mode de vie. C'était encore dans les mémoires, frais dans les mémoires, surtout les mémoires orales des gens, qu'il y avait des modes de vie solidaires beaucoup plus possibles à la campagne et que la ville étouffait ce genre de processus ou le rendait plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il le rendait impossible, mais que c'était plus... la vie en ville était devenue étouffante, l'air était mauvais, on vivait mal, on était mal logé dans des conditions effroyables. Donc les corps en pâtissaient. Donc ils estimaient qu'il fallait redistribuer tout ça, le rapport ville-campagne, il ne fallait pas... vider les villes, il fallait les réorganiser et faire un rapport ville-campagne beaucoup plus intéressant. Et surtout, je cite un auteur qui s'appelle Javier Paniagua, qui était le seul en Espagne, à ma connaissance, qui s'est penché sur ces histoires des deux courants agraristes et industrialistes, qui a beaucoup cherché des citations de part et d'autre pour donner à voir ce que c'était. Et il dit pour ces gens-là, pour ces jeunes prolétaires urbains, l'agriculture représentait une sécurité et une liberté dans le travail que n'offrait pas l'industrie, où l'activité est monotone et sans créativité. Le projet communaliste resta ancré chez beaucoup de militants de la CNT, tant qu'il n'eut pas contre lui d'options syndicalistes assez consistantes pour s'attaquer à l'anarchisme classique.
Et en fait, ça c'est intéressant parce que finalement, une caractéristique de l'anarchisme espagnol, c'est d'avoir réussi plus ou moins tout au long de son histoire à maintenir quand même un lien entre la ville et la campagne, d'une certaine manière entre un anarchisme rural et un anarchisme urbain, sans tomber dans des formes d'opposition radicale, comme on va retrouver dans beaucoup de pays, où finalement toutes les thématiques rurales vont être, bon, par exemple comme en Allemagne, beaucoup laissées à l'extrême droite, en France également c'est le cas, même s'il y a des tentatives quand même assez importantes à la fin du 19e siècle. Tu citais un texte d'Élisée Reclus justement dans le volume 1. Malgré tout, il n'y a qu'en Espagne où ce lien va se maintenir, à la fois dans la théorie et aussi dans la pratique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une espèce d'exode rural radical, mais des allers-retours entre la ville et la campagne, en termes d'idées, de personnes, et aussi en termes de projets de société.
Et ça nourrissait, si on se bat comme ça en ville, c'est parce qu'on a cette idée-là devant nous, de vie à la campagne, et la ville et la campagne réconciliées dans une autre façon de faire. C'est ça qu'ils exprimeront à cette époque-là, c'est ça qui les tenait. C'est ça qui tient lieu d'idéal, de motivation. Alors qu'ils vivent dans des conditions tout à fait différentes pour le moment.
Enfin voilà, justement, le fait qu'ils maintiennent un lien avec la société rurale, ça leur fournit un imaginaire qui n'est pas que celui du capitalisme. Ouais. Même si dans les sociétés rurales, c'est une société qui est dominée par l'aristocratie, les paysans doivent payer des impôts, donc c'est évidemment pas une société émancipée. Mais disons, il y a un horizon non capitaliste, pas tellement dans les rapports de domination qui s'y exercent, puisqu'ils sont, évidemment, c'est des rapports oppressifs, mais plutôt dans le type de lien, de solidarité, de rapport justement à l'activité de production.
Etc. C'est là qu'on voit aussi qu'on est encore au premier stade du capitalisme, qui n'est pas, c'est pas encore dilué dans la société, hein, dans les rapports sociaux, autrement que sur le lieu de travail ou le mode de production stricto sensu. Comme dit Chris Elam, c'est des militants dans l'anarchisme qui ne sont pas du tout séduits par les sirènes de la consommation, de la culture de masse, du sport, tout ça, ça prend pas. Alors que ça commence à se répandre à la même époque en France, etc. Là, en Espagne, il n'y a pas de fascination, de séduction de ce genre-là. Est-ce que Seidman, alors là, c'est là aussi que je veux citer Seidman, qui a beaucoup apporté dans notre réflexion à ce niveau-là, qui est tombé à point nommé dans tout cet agencement de courants d'idées. Lui, ce qui nous avait frappé dans son livre « Ouvrier contre le travail » en France et à Barcelone sur les fonds populaires, c'est qu'il disait, à un moment donné, on voit que même chez les militants anarchistes espagnols, on voit évoluer ce rapport à l'industrie qui commence à prendre de plus en plus de place et à modifier les fondamentaux de ce mouvement-là. C'est lui qui l'avait formulé comme ça, qui nous avait indiqué cet agencement des courants, quoi. Et donc, effectivement, on voit au congrès de 1931 que le syndicat est posé comme une structure qui organisera la vie sociale après la chute du capitalisme. L'abolition du salariat mystérieusement disparu. Et on voit que le courant industrialiste commence à prendre un ascendant sur le courant communaliste. Parce que le mouvement le plus frappant de ça, c'est que Abad de Santillane, dont on a cité le propos radicalement anticapitaliste et très profond, va basculer mais complètement à l'opposé, en gros, entre 33 et 34. Entre 33 et 34, c'est la période où la crise de 29 qui s'est propagée dans le monde entier a commencé à avoir des effets en Espagne. Donc on s'explique, certains ont essayé de comprendre aussi ce revirement de Santillane, et visiblement, il se dit à ce moment-là que le capitalisme est en train de tomber et que le mouvement ouvrier qui est puissant en Espagne et qui, l'espère, dans le reste du monde, va devoir reprendre les choses, la production en main. Et là, il faut peut-être s'intéresser de plus près à comment fonctionne une usine, comment les lois d'économie, tout ce qu'il avait méprisé, critiqué, comme fascisme économique, le fordisme, le taylorisme, tout ça va être revisité par lui de manière presque admirative, quoi. Il va tomber dans une sorte de fascination qui va complètement le posséder, quoi.
En fait, il tombe un peu dans une vision du monde gestionnaire où la classe ouvrière n'est plus en opposition au capitalisme et vise à son abolition, mais plutôt est le futur gestionnaire de la société industrielle et salariale. Et bon, c'est un mouvement qu'on retrouve aussi dans d'autres courants, dans le marxisme, il y a eu cette même tendance, effectivement, gestionnaire. Et évidemment, avec une perspective gestionnaire, on ne peut pas rompre avec le capitalisme, et on ne peut pas rompre avec grand-chose, en fait. On se retrouve pris,
embarqué dans ses lois, dans ses principes, dans son tempo, dans tout. C'est exactement ce que Santillane va développer autant d'énergie qu'il avait mise et d'écriture et de publication pour défendre le communisme réaliste. Il va en déployer tout autant sa force de frappe intellectuelle pour défendre ça. Et il va défendre ce qu'il appelle la nécessité d'une révolution réparatrice en fonction de la crise mondiale, économique mondiale qui s'annonce et qui fait des dégâts maintenant en Espagne. C'est-à-dire qu'il veut bien se débarrasser du capitalisme, mais il faut que le syndicat soit à la hauteur de la situation. Il faut que le mouvement révolutionnaire répare tous les dégâts. Il dit le capitalisme, il a montré qu'il n'était plus capable même de gérer, de maîtriser la technique. Et c'est lui-même qui a mis en branle ce processus technique, mais il n'est même pas capable de la maîtriser. Nous, on va faire mieux. Nous, les ouvriers, on va faire mieux.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu la même rhétorique que dans le marxisme? C'est-à-dire que finalement, les forces productives dépassent finalement les capacités de la bourgeoisie à la gérer, donc c'est la classe ouvrière qui doit reprendre ses moyens de production.
Il va dire le capitalisme est en crise parce qu'il ne sait pas s'adapter au progrès de la science. Je cite, l'industrie moderne est un mécanisme qui a son rythme propre. Le rythme humain ne détermine pas celui de la machine, c'est celui de la machine qui détermine l'humain. Donc autant il avait critiqué ce qu'on avait appelé le fordisme, le taylorisme, autant maintenant il vante les mérites de la rationalisation, de la taylorisation, je cite, qui supprime les mouvements improductifs de l'individu. Comme les marxistes, il va défendre l'évidente nécessité d'une économie planifiée. Il invite les prolétaires à s'identifier à l'appareil productif existant, à se soumettre au rythme de l'industrie moderne. Il va vouloir dégager complètement tous les principes fondamentaux du communisme anarchiste dont tout le monde avait hérité. Il invite au réalisme les militants omnubilés par le communisme libertaire, selon ces termes. Il les incite à se débarrasser radicalement de leur mentalité pré-industrielle. À dépasser l'infantilisme du communisme libertaire basé sur les prétendues communes libres et indépendantes propagées par Kropotkin et d'autres. Il propose véritablement de revenir aux fondamentaux et de s'en débarrasser. De la même manière, il va s'attaquer aux groupes d'affinités. Il dit les groupes d'affinités, ils n'ont aucune fonction spécifique dans la vie économique. On peut s'en débarrasser. Dans la future République des travailleurs, les hommes se coordonneront désormais par affinité de production et communauté d'intérêt. Il ramène tout au secteur de la production. Tout est ramené à ça. Et au tempo de la machine. Que le capitalisme, les capitalistes n'avaient pas su maîtriser. Mais parce qu'il ne voulait pas s'y soumettre, fondamentalement. Il dit, mais il faut s'y soumettre, complètement. Nous-mêmes, les ouvriers, c'est même pas qu'on le maîtrisera mieux, c'est qu'on s'y soumettra, accepter de s'y soumettre complètement. Et c'est comme ça Il va même parler plus tard de la seule révolution possible, c'est la révolution technologique. Tout le reste, c'est le temps des barricades, tout ça, c'était bien beau, mais c'est la rigolade. Non, la vraie révolution, c'est la révolution technologique. C'est quand même faramineux, quoi. Donc, par là, il posait, tous les ingrédients qui vont permettre le passage du premier stade du capitalisme au second. Hein, parce qu'il faut vraiment que cette dynamique du capital, avec la suranisation du travail vivant, avec la mécanisation du travail, l'OST, etc., donc que l'homme accepte de se laisser lui-même déposséder de ses qualifications, se soumettre au rythme de la machine, c'est exactement ce que le capitalisme est en train de développer dans les autres pays, et finalement va pouvoir se faire en Espagne grâce au syndicat de l'ORT et de la CNT, ce qui va se passer après juillet 36. C'est un mouvement qui vont mettre en branle, eux, et que certains patrons, même de sociétés américaines, de sociétés d'automobiles, l'usine Ford de Barcelone, que les ouvriers prennent en main, les patrons américains vont revenir et saluer le mouvement ouvrier qui, mieux que la bourgeoisie, a su faire dynamiser la production.
Finalement, une thèse quand même centrale de ton livre, c'est que on ne peut pas expliquer l'action de la CNT à partir de juillet 1936, c'est-à-dire son entrée au gouvernement, d'abord de la Généralité de Catalogne, puis au gouvernement républicain. On ne peut pas comprendre non plus le fait qu'ils abandonnent le projet de communisme libertaire, le fait qu'ils vont accepter, qu'ils vont avaler un certain nombre de couleuvres, la militarisation des milices, etc. etc. En fait, ton livre vise à montrer que ce ne sont pas les circonstances, pas principalement les circonstances qui auraient contraint, entre guillemets...
De la guerre et du coup d'État et de la guerre.
Qui auraient contraint, entre guillemets, la CNT à opérer un virage réformiste, de collaboration antifasciste, mais qu'en réalité, il y avait déjà une espèce de préparation idéologique de la part d'une partie de la CNT, notamment de son appareil, à tomber dans une logique réformiste, de collaboration antifasciste avec l'État et avec la logique capitaliste. Donc voilà, ça, c'est pas tombé de nulle part. Et finalement, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que les circonstances ont permis la réalisation de ce programme, bon, dont on a vu ce qu'il a donné.
Parce que là, on est toujours dans les années 33-34. Hein. Tout ça se peaufine à ce moment-là. Et avec Santillane va être donc soutenu par Joan Peiro, donc il s'associe pour développer cette ligne-là, tout en disant qu'il s'inspire effectivement du régime, de la théorie du régime de transition de Cornelissen, qui est lui-même Cornelissen, qui disait
« Nous estimons que la réalisation progressive du régime communiste sera le fruit d'une longue éducation des hommes de génération en génération. Nous ne pourrons décrire les principes fondamentaux d'une civilisation communiste libertaire sans admettre la nécessité de l'existence d'une période de transition durant laquelle les us et coutumes de l'ancienne civilisation capitaliste exerceraient encore une forte influence sur toutes les institutions communistes. »
Voilà, donc Christian Cornelissen, ça c'est en 1933 qu'il écrit ça, il ajoutait qu'il fallait reporter à un avenir très lointain le respect du principe de « à chacun ses besoins ». C'est bien joli, mais c'est pas réalisable tout de suite, dans la mesure où on voudrait l'appliquer à la société entière. Donc on revient là vraiment aux prémices du mouvement communiste anarchiste.
C'est assez amusant parce que finalement c'est à peu près ce que dit Marx dans la critique du programme de Gotha. C'est que d'abord rester dans l'horizon borné du droit, donc à chacun selon son travail, et dans un horizon très lointain, effectivement, on pourra passer au communisme, c'est-à-dire à chacun selon ses besoins. Donc on voit finalement que dans le mouvement anarchiste, il y a ce même horizon du communisme, disons, qui s'éloigne, 50 ans après le marxisme, mais qui s'éloigne quand même.
Et ce mouvement dont on avait célébré, avec la citation du début, on célèbre l'anarchisme, le mouvement anarchiste, comme le creuset qui va faire face à la social-démocratie qui se déploie avec les marxistes et socialistes réunis de la Deuxième Internationale, qui défendent de ce point de vue-là, de la période de transition. Et là, on voit la CNT qui ravale tout ça et qui propose de s'aligner sur le programme social-démocrate. Et Santillane rajoute pour sa part... Si nous combattons la structure économique et sociale capitaliste, c'est parce qu'en elle, le travail n'est pas récompensé comme il le devrait. Nous voyons pour nous, anarchistes libertaires, succéder à la chute du capitalisme une période longue et pénible de travail. Ça, ça annonce ce qui va se passer, effectivement, les appels au sacrifice et à se dédier corps et âme, sans compter au travail, les mots d'ordre qui vont émaner de la CNT et de la FAI dès fin juillet 36
Ça, c'est un discours typique des pays dans lesquels, en fait, il est question d'une modernisation de rattrapage et dans lesquels on veut convaincre une génération qu'elle devra se sacrifier quasiment, hein, travailler, souffrir longtemps pour les générations futures.
Ouais, et d'ailleurs, on retrouve le même discours chez un responsable de la social-démocratie allemande qui dit que le socialisme, c'est travailler beaucoup.
Oui, et il y en a un des staliniens qu'on va voir en Espagne aussi, militer pour ça, il va dire, parce qu'avant il y avait une formule qui ne travaille pas, ne mange pas, hein, contre les parasitismes de l'aristocratie, de la bourgeoisie, alors les ouvriers, eux, on va imprimer ce nouveau slogan, et lui il rajoutait, et maintenant il faut et travailler et moins manger, travailler plus et moins manger, il ira jusque-là. Quoi. Pour dire jusqu'où ça va aller, l'appel au sacrifice, donc il ne faudra pas s'étonner, parce que tout ce qu'a remarqué Seidman, qui fait l'objet de son bouquin, de la moitié de son livre « Ouvrier contre le travail » à Barcelone, c'est que la productivité va baisser de manière drastique dans les usines collectivisées ou sous contrôle ouvrier de Barcelone, et on va voir que cet appel au sacrifice, ça ne marche pas du tout. Quoi.
Oui, au contraire, il va y avoir de l'absentéisme.
Une désaffection, et puis un dégoût, une passivité, et tout ça en creux. Une désappétence pour un mouvement qui était censé être le leur et dont on les a dépossédés depuis le 20 juillet 36, parce que dès le 20 juillet 36, on dit pas de communauté libertaire, on leur dit ça, c'est pas au programme. Hein. On a mais travaillé beaucoup. Donc après, on s'étonne qu'il y ait peu d'enthousiasme dans les usines de Barcelone et tous les syndicalistes, tant de l'OCT que de la CNT, disent mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, c'est les ouvriers. Il faut en convenir, ils vont dire dans un texte de 37 ou 38. Le problème, ce n'est pas la bourgeoisie, le problème, ce n'est pas les capitalistes, c'est les ouvriers, ils ne veulent pas bosser. Ils vont tous se demander de manière ahurie comment ça peut se passer comme ça.
Parce qu'ils se retrouvent justement dans cette position de gestionnaire d'une économie de guerre, et donc là, ils voient qu'en fait, le principal frein à la production capitaliste de manière générale, c'est la non-collaboration volontaire et enthousiaste des ouvriers. Que ce soit dans un régime de capitalisme libéral ou que ce soit dans un régime de capitaliste sous contrôle ouvrier ou avec des usines collectivisées, etc.
Donc ça, on anticipe sur le volume 3 dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que ça sera un peu trop long. Mais dans le volume 3, je développe, comme tu l'as dit. C'est pour ça qu'il est important de développer tout ce qu'on a écrit dans les volumes précédents pour comprendre où je veux en venir, ce fil dont tu parlais. C'est qu'effectivement, on voit bien que ça ne colle pas cette histoire. Tout d'un coup, le programme communiste libertaire comme il a été décidé avec le vote de la motion au congrès de Saragosse, ce programme-là aurait dû être mis en pratique et il n'a pas été juste à cause de la guerre. Non, c'est bien pour d'autres raisons. Donc juste pour finir quand même, parce que c'est important de revenir là-dessus, c'est l'époque en 1933 où sort le programme communiste libertaire d'Isaac Puente. Donc c'est le point d'orgue de tout ce processus de polémique, de discussion à travers des brochures et des textes. Et là, Isaac Puente, c'est un médecin anarchiste de Vitoria qui va s'atteler à la rédaction d'une brochure très précise, très concrète, qui va être tirée et retirée pendant 2-3 ans et publiée dans la presse, publiée sous toutes les formes possibles. 100 000 exemplaires, elle va être extrêmement lue par le prolétariat militant espagnol. Alors, dans le programme de Puente, c'est le seul programme que je connaisse dans l'histoire, un programme communiste libertaire aussi circonstancié qui va être proposé. En plus, sous un mode de discussion, hein, parce que déjà ça paraît sous forme d'articles dans la presse Solidarité Obrera, pour que les gens le lisent et fassent remonter des remarques. Et là, c'est là qu'on voit vraiment que le mouvement de la CNT est un mouvement de base en haut, et une circulation des idées, des discussions et des thèmes. Ça va effectivement beaucoup aller et venir au niveau des syndicats uniques, des quartiers, de certains villages, etc. Donc après, quand il se bien peaufiné, il sortira sa brochure en ayant pris en compte tous les retours qu'il avait eus. Donc on va vous lire un passage essentiel de ce programme. Donc, dans le programme de Isaac Puente, évidemment, on procède à l'abolition, une fois le capitalisme foutu en l'air, abolition de la propriété privée, de toute autorité, toutes les décisions sont prises à l'Assemblée Générale, le municipio libre, la commune rurale, enfin la commune en tout cas rurale, ou le quartier, sera l'élément fondamental de l'organisation rurale pour la campagne, car elle représente une institution enracinée et très ancienne. Les ouvriers de l'industrie se serviront du syndicat, l'organisation vers laquelle vont spontanément les producteurs. Bon, lui, il tente de concilier aussi les deux tendances. il reconnaît que normalement le syndicat ne peut plus être en charge de la gestion de la vie sociale après la chute du capitalisme, et lui l'introduit en disant ben, on va essayer de faire couler les deux courants, essayer de réconcilier tout le monde comme ça. Donc on procédera évidemment à l'abolition du salariat, mais le travail restera obligatoire pour les membres utiles. À chacun selon ses besoins sera la formule adoptée. Donc selon la période d'abondance, ce ne sera pas sans problème. S'il y a des problèmes de pénurie, on rationnera ce qui est rare. La distribution des produits à consommer se fera via les coopératives et l'argent sera remplacé par un carnet de producteurs ou de rationnement. Et un point très important, il n'y aura plus de valeur des produits. On va vous expliquer un peu pourquoi.
Échange de produits entre localités. On donne le surplus. On prend ce que d'autres offrent et qui est nécessaire. Les échanges de produits entre localités se font sans équivalence de valeur, car ils sont tous équivalents du point de vue de leur nécessité, quel que soit le travail qu'ils ont demandé ou l'utilité qu'ils représentent. La notion de valeur est étrangère à l'économie libertaire, il n'y a donc aucune raison de la mesurer avec la monnaie. L'échange avec équivalence de valeur ne se pratique que dans les pays bourgeois.
Donc là, effectivement, c'est rare de trouver des textes de cette époque-là mettant en question comme ça la notion même de valeur marchande. Hein. On ne comptabilise plus l'effort humain, on ne comptabilise plus la valeur des produits. Le capitalisme, c'est ça. Il est bien conscient que c'est ça qu'il faut liquider et pas simplement l'exploitation de l'homme par l'homme, l'abolition du salariat sous sa forme, disons, un peu plus morale. Quoi. Là, c'est vraiment le cœur de cible pour lui du capitalisme, c'est ça. Et il propose de s'en débarrasser. Donc voilà, c'est un texte pour l'époque qu'on trouve...
Même si on peut y voir encore, une alternative posée entre une valeur d'usage et une valeur d'échange. Je parle de valeur de nécessité, en gros c'est la valeur d'usage. Donc ça veut dire qu'il c'est pas non plus tout à fait une critique de la valeur en soi, hein, au sens où Marx peut l'avoir théorisé, c'est encore quelque chose qui est du côté de la valeur d'usage défendue contre la valeur d'échange.
Par rapport en tout cas à l'anticapitalisme, de l'anarchisme espagnol et du projet communiste libertaire, c'est vraiment le plus pointu qu'on puisse trouver à cette époque-là. Quoi.
Oui, et d'autant plus que finalement, s'il appelle à une abolition de la production marchande, à terme finalement, il y a aussi une abolition de la valeur d'usage, puisque les produits ne sont plus produits en tant que marchandises, même si elles n'ont pas de valeur d'échange, mais elles sont produites simplement parce qu'elles répondent à des besoins.
Besoins qu'on mettra en place à travers ce qu'il appelle un carnet de rationnement, ce qui va s'expérimenter en Aragon. Contrairement à ce qui va se passer à Barcelone, pour anticiper dans le volume 3, en Aragon, les communistes libertaires du comité régional d'Aragon vont, eux, embrayer immédiatement dans ce projet-là. Et entre-temps, il faut signaler qu'on va expliquer peut-être, parce que j'avais dit qu'il y avait une montée du courant industrialiste et de tous leurs thèmes qui commençaient à devenir, à se généraliser, mais ce texte de Puente va bouleverser visiblement la donne, puisqu'il va avoir un succès fou, et que lors du congrès, le 4e congrès de la CNT de mai 36, donc 2-3 ans après, c'est la diffusion incessante de ce libelle, cette petite brochure. Un des militants les plus partisans du possibilisme, du réformisme syndicaliste, qui s'appelle Horacio Prieto, va proposer une motion sur le communisme libertaire. Et aux surprises, quand cette motion va être rédigée et votée après beaucoup d'allées-venues, toujours pareil avant, des semaines avant, dans la presse, les débats, les motions sont mises à discussion, et il va revenir, ce projet, cette motion de communisme libertaire va reprendre quasiment toutes les thèses communalistes classiques. Aux grandes dames de Santillane, Peyrot et d'autres qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? C'était fini tout ça ?» Moi, je pense que c'est le succès de la brochure de Puente qui va populariser de nouveau ce thème de la communauté libertaire. Parce que Santillane et d'autres sont tellement outrés qu'ils disent qu'il y a une manipulation. Les communistes, les vieux communistes libertaires, ils ont manipulé l'émotion pour se mettre au niveau du militant moyen. En plus, on voit un terme très dépréciatif. On imagine l'effet que ça peut produire. Donc pour eux, ils ne comprennent pas. Ils disent mais c'est fini tout ça, on avait dit que c'était terminé. Or, deux mois, trois mois après, le coup d'État commence. Juillet 36, donc le processus révolutionnaire se met en branle. À Barcelone, en 2-3 jours, il est décidé de pas du tout aller dans le communisme libertaire. Et c'est les gens, Peyrot, Santillane et d'autres, qui sont à la manœuvre, aux commandes, à l'économie et à l'industrie. Ils vont devenir un ministre anarchiste, etc. etc. Et en Aragon, eux disent, nous, on a voté la motion, on a voté et bien reçu la motion sur le congé libertaire. On n'a pas de raison de différer le processus. Nous, on y va. Voilà comment ce que j'appelle, moi, un dédoublement du mouvement libertaire anarcho-syndicaliste, y compris la faille, hein, qui va se dédoubler aussi. Une partie du mouvement va se lancer dans le projet congé libertaire, l'autre partie va le freiner.
Oui, c'est intéressant parce que finalement, on pourrait avoir tendance à penser que c'est lié à la situation différenciée de Barcelone et de l'Aragon, à une différente appréciation des circonstances, mais en réalité, les gens qui se retrouvent, disons, aux commandes, entre guillemets, du mouvement anarchiste en juillet 1936, ont déjà des options bien précises de ce qu'ils veulent dans le cas d'une situation telle que celle qui va être...
Mais à Barcelone, ça va se doubler d'un hiatus très important entre ce qu'on va appeler les comités directeurs de la CNT de la FAI. La démocratie interne ne fonctionne plus. Quand ils font un appel, dès le 20 juillet, ils font un appel à la militance pour ne pas se lancer le comité libertaire, c'est sans retour, c'est pas en discussion. C'est comme ça, c'est décidé. Et les semaines qui suivent, il va y avoir des appels aux militants pour qu'ils arrêtent de discuter cette décision. Elle est prise. On n'en discute pas. C'est effarant. On ne reconnaît plus le mouvement. Donc à Barcelone, il va y avoir un choc terrible, un malaise grandissant entre un tas de militants qui vont se rendre compte qu'en plus, les militants intermédiaires, ils sont chargés de répercuter ces décisions auprès de la base, qui, pendant un moment, ne comprend rien, parce que pendant des semaines, à Barcelone, c'est la folie révolutionnaire qui s'empare de la ville. Dans les quartiers, tous les groupes, les Athénées, les jeunes libertaires, les groupes d'affinité, les syndicats de base, tout démarre en processus. Eux aussi, ils ont entendu le projet, le vote de la motion au congrès de Saragosse. Ça ne fait pas un pli que nous, on y va aussi. Donc eux, ils démarrent un processus, et au bout de quelques semaines, ils arrivent à entendre ce qu'on leur dit dans la soli, qu'on leur répète tous les jours. Pas de communisme libertaire, on diffère ce projet, ne discutez pas de décision. Il faut imaginer le trouble que ça a provoqué à ce niveau-là. Donc on a une situation très très complexe, confuse, douloureuse qui va se dérouler pendant quelques semaines à Barcelone, en Catalogne, dans les lieux forts de l'anarcho-syndicalisme et les milieux communistes libertaires. Il y aura une tension terrible. Ce sera l'objet de notre émission.
Effectivement, ce basculement un peu autoritaire et bureaucratique un peu de la CNT qui va pas être compris des militants de base et c'est pas tellement une trahison mais disons un non-respect disons de la démocratie interne de la CNT qui va faire que il va y avoir voilà un certain découragement de la part des militants de base. Il y en a qui vont évidemment avec les Los Amigos de Durruti va y avoir quand même encore une partie de la base de la CNT qui va chercher à se révolter contre cette situation. Mais d'une certaine manière, le mal est déjà fait.
Très rapidement, en octobre, puisque l'État n'est pas aboli et que la CNT accepte de ne pas l'abolir et va collaborer avec lui, ils vont accepter de voter une série de décrets dont le principal, c'est la dissolution des comités révolutionnaires. Toute la militance de Barcelone qui s'était lancée dans les comités de base révolutionnaires, de quartier, d'usine, de tout ce que tu voudras, on leur dit « rendez les armes et arrêtez tout ». C'est l'État maintenant qui prend en charge, et nous, on est tellement forts qu'on contrôle l'État. C'est pas grave.
Ce qu'on peut dire en conclusion de cette émission consacrée donc au volume 2 des chemins du communisme libertaire en Espagne, c'est que finalement, tous ces débats à l'intérieur de la CNT de 1910 à 1936 vont déterminer en partie le cours, disons, de l'action du mouvement anarchiste pendant la guerre d'Espagne, et que c'est pas simplement la guerre d'Espagne qui va déterminer l'autolimitation en termes de révolution de la CNT, mais qu'au contraire, c'est déjà préparé par une série de reniements
d'une partie du
mouvement, et qui est effectivement symbolisée de manière assez caractéristique par Sainte-Tiane, qui abandonne un programme révolutionnaire, centré sur le communisme libertaire, pour passer à une approche gestionnaire, industrialiste et syndicaliste du capitalisme. Donc on espère en tout cas que ça vous aura donné envie de lire ce passionnant volume 2, donc, qui est sorti aux éditions Divergence en 2018, qui est un très beau livre, bien plus développé que tout ce qu'on a pu dire.
Et déjà signaler que le volume 3 est sorti, même si on n'en parle pas aujourd'hui, il est sorti en mai 2019, et on va arrêter là même, on va arrêter cette trilogie, ça va s'arrêter à la trilogie, on n'ira pas plus loin.
Voilà, mais ça fait déjà pas mal de lectures, puisque si on groupe tous les ouvrages hyménologiques, il y a 2500 pages à peu près à lire, mais c'est vrai que Si on veut passer plus, si on veut commencer plus sur un aspect historique et synthétique, les trois volumes des chemins du communisme libertaire en Espagne sont voilà, une porte d'entrée, je trouve, la meilleure sur l'histoire de l'anarchisme en Espagne. C'est un travail de synthèse qui n'avait pas été fait précédemment, ou qui était incomplet, ou qui couvrait pas toute la période.
Avec beaucoup de traductions de textes en espagnol, introuvables en français. C'est ça aussi qui est intéressant, quand même, dans le travail qu'on a fait, quoi, de découvrir les débats, les polémiques internes, et de les traduire, parce qu'en français, il n'y avait pas grand-chose. En France, de traduire, il n'y avait pas grand-chose.
Voilà, donc c'est finalement un travail de synthèse, de traduction, et en même temps de critique, puisque, évidemment, ces trois ouvrages proposent une autre vision de l'histoire de l'anarchisme espagnol que celle qu'on trouve dans, disons, l'historiographie ou la géographie anarchiste traditionnelle, écrite dans l'exil après 1945, et qui, justement, n'abordait pas de front ces questions problématiques, finalement, qui ressortent dans
le livre. Il y a un refus de tirer un bilan de ce qui s'est passé. Et ça, c'est que quelqu'un comme Vernon Richards, qui a écrit Enseignement de la Révolution espagnole, un livre qui a été traduit dans les années 60 et réédité maintes fois, c'était un des premiers à dire mais il faut faire ce bilan. Il avait vraiment déjà commencé à pointer les problèmes de manière assez importante, et il n'a pas été suivi, quoi. Ce bilan n'a pas été tiré, c'est pas vrai.
Voilà, donc en tout cas, on pourra tirer un bilan à la lecture donc, de ces trois ouvrages parus aux éditions Divergence entre 2017 et 2019, et on retrouvera les Géminologues dans une future émission consacrée à une nouvelle histoire de la Révolution espagnole de 1936-1939, qui corrigera, approfondira celle qu'on avait déjà fait avec eux en 2016.
D'accord.
Voilà, merci.
100 doute. L'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.